La survie a toujours été la clé de voûte et la condition sine qua non de toute existence juive, sans que nous ayons jamais voulu qu'il en soit ainsi. Nous avons toujours eu des ennemis, toujours été chassés. On ne peut pas dire que tout le monde hait les Juifs, mais dans chaque pays où nous avons vécu, au cours de chaque décennie, de chaque siècle, nous avons connu la haine. Alors, nous n'avons dormi que d'un œil, avons gardé une valise prête dans le placard et un billet de train aller simple dans notre poche de poitrine, contre notre cœur. Nous avons fait de notre mieux pour n'offenser personne et ne pas faire trop de bruit. Pour réussir, oui, mais sans trop attirer l'attention. Nous avons organisé notre vie autour de la volonté de la perpétuer, par nos histoires, nos mœurs, nos valeurs, nos rêves et nos angoisses. Comment nous le reprocher ? Nous sommes un peuple traumatisé. Et il n'est rien de plus puissant que le traumatisme pour altérer l'esprit et le cœur. Nos histoires sont si fondamentales à nos yeux qu'il est facile d'oublier que nous les choisissons. Nous choisissons de faire de la vie le critère de valeur ultime des Juifs, au lieu d'admettre qu'il y a plus important que le fait même d'être en vie.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Alors que son arrière-grand-père Isaac s'est suicidé plutôt que d'aller dans une maison de retraite, Sam, l'aîné des trois fils de Julia et Jacob Bloch, qui rechigne à préparer sa bar mitzvah, se voit menacé de renvoi de sa très chic école de Washington pour avoir écrit une liste d'injures racistes, sexistes et sexuellement connotées. Au même moment, le couple, jusque-là modèle de réussite conjugale, commence à parler divorce après la découverte par Julia de SMS pornographiques envoyés par Jacob à une autre femme. La famille Bloch vacille, tandis qu'Israël, où son terrible séisme a eu lieu, affronte une nouvelle guerre avec ses voisins arabes. Me voici, nouveau roman du surdoué Jonathan Safran Foer, traduit par Stéphane Rock pour les éditions de l'Olivier, décrit de façon tendre, cruelle et désopilante la vie sur le point de basculer de la famille Bloch, des cadres intellectuels aisés confrontés à la fin de la passion amoureuse et à l'effacement de leurs liens avec le judaïsme. Très autobiographique, le récit incorpore une multitude de faits, de dialogues, d'incidents, comme dans la vie, quand tout se télescope. C'est formidablement intelligent, drôle et touchant, tout comme son auteur. Bonsoir Jonathan Safran Foer.
Hello.
Votre livre s'appelle « Me voici »,« Here I am » en anglais. Ça fait allusion au texte de la Bible qui relate le sacrifice d'Isaac. Abraham répond à Dieu « Me voici ». C'est une inspiration pour vous, ce texte de la Bible. Il revient d'ailleurs dans votre livre à plusieurs reprises.
It was something that came up in the process of writing the book. I don't think I would say that it was an inspiration. An inspiration usually implies that it comes before. You know, you were inspired to do something and it's the cause for some effect.
En fait, c'est pas à proprement parler de l'inspiration, puisque l'inspiration est censée venir avant. Quelque chose vous inspire, l'envie d'écrire, c'est une sorte de cause qui produit des effets. Moi, j'ai jamais ce genre d'inspiration, quelque chose qui me pousse à écrire. J'écris en fait depuis une position très ouverte. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de résultat que je recherche, je n'ai pas une histoire en particulier à raconter. Je n'entends pas une voix, il n'y a pas des personnages qui m'habitent depuis des années. Je commence par une page blanche, je la remplis, et c'est seulement quand j'écris que je commence à voir, à comprendre ce à quoi je pensais depuis tout ce temps. C'est un peu le contraire de l'inspiration, en fait. C'est plutôt quand j'écris que je découvre ce que je voulais dire.
Alors, quand on lit ce livre, Jonathan Safran Foer, on peut penser à Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, ce film magnifique. Mais votre éditeur français, Olivier Cohen, a l'habitude de vous comparer à Isaac Bashevis Singer. Il rajoute sous LSD, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais Isaac Bashevis Singer, qui écrivait en yiddish et qui racontait la vie de ses vieux juifs qui apparaissent dans votre livre, est-ce que pour vous, c'est une comparaison agréable à entendre et est-ce qu'elle est pertinente ?
One of my favorite sayings about which applies to writing and it applies to life also is that a bird is not an ornithologist.
Il y a une phrase que j'aime bien qui s'applique pour moi aussi bien à la vie qu'à l'écriture, c'est les oiseaux ne font pas des ornithologues. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est capable d'expliquer cette chose, de l'analyser et qu'on s'y connaît en fait, voire même qu'on choisit réellement en fait cet art ou cette science.
You know, there are writers that I like Isaac Bashevis Singer. It's a compliment. But it's not a comparison that I would give a whole
lot. La comparaison que vous faites est un compliment, mais en fait, quand on commence à trop réfléchir à ce qu'on est en train de faire, il y a un des plus grands risques pour l'écriture, qui est déjà quelque chose de très difficile, c'est d'avoir trop conscience de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on finit par risquer de devenir plutôt, en quelque sorte, la performance de l'écrivain que l'écrivain lui-même. Ce genre de discussion, de conversation comme on est en train d'avoir, ça a beaucoup d'intérêt, mais ça fait peser ce risque d'avoir un peu trop conscience de soi en tant qu'écrivain. De type d'analyse, la critique, etc. C'est très intéressant pour les lecteurs, c'est sûrement très intéressant pour les critiques de par le monde, mais ce n'est pas forcément intéressant pour la création en tant que telle. Je suis très heureux de parler du processus d'écriture, mais pour ce qui est d'une analyse, on va dire, un peu plus poussée, critique de l'écriture, je me montre beaucoup plus réservée.
On sait, Jonathan Safran-Foer, que c'est Joyce Carol Oates qui vous a poussé à devenir écrivain parce qu'elle croyait en votre talent. Et vous dites souvent que vous êtes devenu écrivain par hasard. En même temps, on sait qu'aussi que ce livre est né parce que vous avez arrêté d'écrire une série télé qui racontait un peu l'histoire de ce livre. Vous avez donc à un moment, à ce moment-là, en décidant d'arrêter l'écriture télévisée, vous avez choisi votre carrière d'écrivain. Est-ce que vous vous sentez écrivain tous les jours? Est-ce qu'à chaque moment de votre vie, vous notez, vous n'arrêtez pas d'emmagasiner des bribes de vie qui se retrouveront dans vos livres?
Writing is a part of my life. I don't know that I feel like a writer. It's my job in the most sort of explicit sense.
Je ne sais pas si je me sens écrivain en permanence, mais c'est mon travail. C'est aussi quelque chose de plus à avoir avec la façon dont j'observe le monde, avec la façon dont j'absorbe le monde, dont je réorganise tout ce que j'ai ressenti à l'intérieur de mon esprit et dont je le restitue.
So I did work on a TV show for about 2 years, 2.5 years.
J'ai effectivement travaillé sur une série télévisée pendant 2 ans, 2 ans et demi, et j'ai beaucoup apprécié ce que je faisais, et on allait produire cette série télévisée, et puis j'ai eu une sorte de crise. C'est pas totalement une coïncidence, c'est arrivé à peu près au mi-temps de ma vie, plus ou moins, on ne sait jamais, à peu près à un moment aussi où je commençais une procédure de divorce. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est à ça que je veux passer mon temps? Parce que quand on se lance là-dedans, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, peut-être 4 ans, 8 ans. Et puis il y a des tentations énormes dans ce monde, qui est un monde beaucoup plus vaste que le monde littéraire, un monde dans lequel c'est beaucoup plus difficile en fait, de dire non. Et c'est comme quand on se lance dans l'héroïne, il ne faut pas commencer par ça, parce que sinon on en veut toujours plus.
It's not that I necessarily value literature more than I value television, although I probably do. It's that I value the life.
Ce n'est pas que j'accorde plus de valeur au monde littéraire qu'au monde de la télévision. En fait, c'est que j'accorde plus de valeur à la vie d'écrivain qu'à la vie de scénariste télé. J'apprécie d'être libre, j'apprécie de pouvoir organiser mon agenda comme je veux, de pouvoir travailler quand je veux, de ne pas être obligé de collaborer avec toutes sortes de gens, des acteurs, réalisateurs, agents, etc.
People describe as being difficult about writing, and it's true, they are difficult, like.
Ce que l'on dit souvent qui est difficile au sujet de l'écriture, c'est le fait d'être seul, le fait d'être isolé, de ne pas forcément avoir des pairs autour de soi. C'est aussi ce que je trouve formidable, et j'avais peur avec cette autre vie de risquer de perdre tout ça.
D'ailleurs, on va entendre la lecture d'une page de votre livre qui est l'écriture de cette fameuse série télévisée par Jacob.
What are you going to tell Crystal?
What I always tell her, to give up on romance and get married.
Work for us.
Les personnages de la série étaient les personnages de la vraie vie de Jacob. Une épouse malheureuse, qui ne voulait pas être décrite ainsi, 3 fils, l'un sur le point de devenir un homme, l'autre sur le point de nourrir de profonds complexes, le dernier sur le point d'acquérir son indépendance intellectuelle. Un père terrifié et xénophobe, une mère qui se tissait et se détissait en silence, un grand-père dépressif. S'il partageait cela un jour et qu'on lui demande dans quelle mesure c'était autobiographique, il répondrait « Ce n'est pas ma vie, mais c'est moi ». Et si quelqu'un devait lui demander dans quelle mesure sa vie était autobiographique, il dirait « C'est ma vie, mais ce n'est pas moi ». L'écriture suivait le rythme des rebondissements de la vie de Jacob, ou sa vie suivait le rythme de l'écriture. Parfois, c'était difficile à démêler. Jacob avait raconté par écrit la découverte de son téléphone plusieurs mois avant l'achat d'un second téléphone. Mais ce n'était pas seulement psychologique. Parfois, Julia disait ou faisait des choses si affreusement similaires à ce que Jacob avait écrit qu'il en arrivait à se demander si elle ne les avait pas lues avant. Le soir où elle découvrit le téléphone, elle avait dit « Ça te rend triste qu'on aime les enfants plus qu'on ne s'aime ?» Cette même réplique, ces mots-là, dans cet ordre-là, figuraient dans le scénario depuis des mois, sauf qu'elle était de Jacob. Hormis les moments que la plupart des gens font tout pour éviter, la vie est finalement très lente, sans intérêt, sans surprise et sans relief.
Jonathan Safranfoer, Jacob et Julia Block, c'est ce fameux couple dont vous racontez la vie dans « Me voici ». C'est un couple d'intellectuels, ils vivent à Washington, ils ont trois garçons absolument délicieux. Ils ont réussi à créer entre eux une sorte de mariage idéal, mais qui au bout de 16 années se délite complètement parce qu'ils n'arrivent plus à se parler, à se surprendre, à se faire confiance, à se dire leurs pensées. On voit Jacob et ses garçons communiquer beaucoup par moyens électroniques. Julia est la seule à faire encore confiance à la parole. Est-ce que vous pensez que c'est justement ce manque de discours en tête à tête, ce manque de confiance dans la parole, qui est le poison le plus sûr pour un mariage?
I don't know if it's a lack of words, but a lack of belief in somebody else's words. The book opens with...
Je ne sais pas si c'est tant le manque de mots que le manque de foi, en fait, qui met en danger ce couple. Le livre s'ouvre avec une scène dans laquelle Sam, le fils aîné de ce couple, a des problèmes à l'école parce qu'il a écrit une liste de mots insultants à caractère raciste, homophobe, misogyne, extrêmement sexualisé, etc. Et l'enseignant convoque les parents pour leur expliquer ce qui s'est passé et Jacob défend son fils. Il ne voit pas où est le problème parce que pour lui, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, ça n'a pas blessé quelqu'un en particulier. Quelques scènes plus loin, Julia va découvrir un deuxième téléphone qui appartient à son mari dans lequel il y a des textos qu'il a adressés à une femme, des textos pornographiques, et il va se défendre exactement de la même manière. Il va dire « mais j'ai pas eu de relation physique avec cette personne, ce ne sont que des mots ». D'ailleurs, on le croit, hein, qu'il n'a sans doute pas eu de relation physique. Julia, en fait, ce qui va le plus la blesser, c'est de savoir que pour lui, ce ne sont que des mots. Elle lui dit même, j'aurais préféré, en fait, que tu couches avec cette femme, parce qu'au moins, j'aurais pu voir que tu étais un véritable être humain. Et pas, justement, uniquement quelqu'un qui n'avait que des mots.
Vous venez de faire allusion aux enfants des Block. Ils ont trois fils, Sam, Max et Benji. Ce sont trois personnes absolument étonnantes et formidables. Et je me demandais si, au fond, le véritable sujet de votre livre, ce ne sont pas ces enfants, les rapports qu'ils ont avec les adultes, avec les autres enfants, si ce n'est pas cet univers de l'enfance et de la préadolescence qui vous a happé au bout d'un moment d'écriture.
Well, I think that a lot of the book has to do with becoming the next person that you will become.
En fait, une grande partie du livre parle de la façon dont on devient la personne qu'on est censé devenir. Dans le cas du personnage de Sam, qui va faire sa bar mitzvah, c'est un garçon qui va devenir un homme. Mais son père aussi, d'une certaine façon, va lui aussi devenir un homme dans le courant du livre, devenir un adulte. Les derniers mots du livre sont « je suis prêt ». En quelque sorte, tous les personnages au travers du livre se préparent, avancent pour essayer d'endosser la prochaine identité qui sera la leur.
The book begins with the sentence when the destruction of Israel commenced, Isaac Block was debating whether.
Le livre s'ouvre sur une phrase, quand la destruction d'Israël commença, Isaac Block se demanda s'il valait mieux se tuer ou emménager dans une maison de retraite juive. Donc on commence avec un personnage pour qui la prochaine étape, c'est soit la maison de retraite, soit la mort.
Jacob and Julia are on the brink of
Pour Jacob et Julia, la prochaine étape, c'est d'essayer de sauver leur mariage.
Their children are on the brink of their own versions of, you know, development or.
Pour les enfants, ils sont, eux, aux prises avec les différentes visions qu'ils ont du fait de grandir, de devenir adultes. Et la dernière phrase, elle est finalement assez ambiguë. Je suis prêt. Il y a certains lecteurs qui peuvent avoir le sentiment qu'à l'issue de cette longue odyssée, Jacob est enfin prêt, justement, à endosser la personne à part entière qu'il est censé être.
Et certains lecteurs pensent que c'est...
D'autres vont penser que c'est ironique et que c'est un faux espoir.
Vous venez de parler, Jonathan Safran Foer, de vos personnages qui font tous un pas vers une nouvelle vie, peut-être une vie d'adulte pour les enfants, une vie plus mature pour Jacob, une autre vie pour Julia. Est-ce que finalement l'écriture de ce livre, qui a suivi un peu vos propres pérégrination personnelle, vous étiez à l'aube d'un divorce, vous aviez arrêté d'écrire cette fameuse série télé. Est-ce que pour vous aussi, ce livre vous a permis de faire un pas, je ne vais pas dire dans une vie plus adulte, mais dans une autre vie? Est-ce que vous êtes différent, plus différent à la fin de ce livre que vous ne l'étiez à la fin des livres précédents?
I definitely do.
Oui, tout à fait. En fait, on est en permanence en train d'avancer vers le prochain chapitre de notre vie. Des fois, ce sont des choix délibérés, des fois c'est par hasard, surtout des fois on en a conscience, alors que des fois ce processus nous reste invisible. Je ne sais pas si j'ai changé davantage ces 5 dernières années qu'auparavant, mais ce qui est certain, c'est que j'en ai eu peut-être davantage conscience et que ça a été plus délibéré pour moi. J'ai eu 40 ans il y a quelques mois à peine et tout mon être refusait que ce soit un moment important parce que ça me semblait extrêmement cliché, mais ça l'a probablement été.
I think the combination of that birthday, which coincided almost perfectly with
c'est sans doute pas une coïncidence si c'est le moment où j'ai publié ce livre et ça m'a semblé effectivement une page extrêmement importante, extrêmement lourde de ma vie qui se tournait.
And I think about things very differently. It's on, you know, when I was younger,
je vois aussi les choses sans doute différemment. Quand on est plus jeune, on a la sensation que tout est en train de s'ouvrir, de se développer. Quand on est plus âgé, on a plutôt l'impression de choses qui disparaissent, peut-être de chapitres qui se referment. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de déprimant, c'est plutôt même quelque chose d'encourageant qui porte, puisque ça pousse en fait à mieux utiliser le temps dont on dispose.
Ce n'est pas une coïncidence, j'ai décidé de ne pas faire cette série télévisée.
Et ce n'est pas une coïncidence, encore une fois, si j'ai refusé finalement de faire cette série télévisée, c'est que j'avais envie de mieux utiliser mon temps. Peut-être si j'avais eu plus de temps devant moi ou la possibilité de le mesurer, si j'avais eu 20 ans, 30 ans, peut-être j'aurais fait cette série télé. Mais à 40 ans, les choses sont différentes.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off, start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again.
Tout ce dont Amir voulait parler, c'était d'argent. Le revenu moyen israélien, la taille de sa fortune amassée si facilement, la qualité de vie sans égale sur cette bande de terre grande comme un timbre-poste où régnait une chaleur oppressante et qui était encerclée par des ennemis psychopathes. Tout ce dont Herb voulait parler, c'était de la situation. Quand Israël nous rendrait-il fiers en prenant en main sa sécurité? Des informations circulaient-elles au pays qu'il pourrait divulguer à ses amis dans la salle de réception de l'Institut de l'entreprise américaine ou qui serait susceptible d'être dégoupillé sur son blog puis balancé? Tout ce dont Jacob voulait parler, c'était du fait de vivre à proximité de la mort. Tamir avait-il déjà tué quelqu'un? Et Noam? Connaissait-il des histoires de soldats tortionnaires ou torturés? Quelle était la pire chose qu'il ait vue de ses propres yeux? Les Juifs avec lesquels Jacob avait grandi ajustaient leurs lunettes de soleil aviateur avec leurs seuls muscles du visage, tout en décryptant les paroles des chansons de Fugazi et en appuyant sur l'allume-cigare de leur vieux break Volvo. Ils étaient nuls en sport, mais adoraient le sport sur console. Ils fuyaient la bagarre, mais adoraient chercher querelle. Ils étaient enfants et petits-enfants d'immigrés, de survivants. Ils se définissaient par la flagrance de leur faiblesse et ils en étaient fiers. Et pourtant, ils se laissaient griser par le muscle. Pas au sens littéral, ils trouvaient ça louche, ridicule, pitoyable. Non, ils étaient surexcités par la mise en pratique musculaire d'idées nées du cerveau des Juifs.
Jonathan Safran-Foer, on vient d'entendre la lecture de ce passage de votre livre qui présente la différence entre le cousin d'Israël, Tamir, qui vient aux États-Unis pour rendre visite à ses cousins à propos de la bar mitzvah de Sam, et puis la façon dont à ce moment-là, Jacob prend conscience de leur rapport différent au judaïsme. Pour les Israéliens, c'est évident, ils habitent dans le foyer juif, ils parlent la langue des juifs, ils pratiquent la religion des juifs, alors que pour la communauté juive américaine, c'est d'ailleurs tout le temps dans le livre, un leitmotiv, il y a une sorte de remords permanent à être juif sans pratiquer la religion, sans parler la langue, sans mettre sa vie en danger. Est-ce que ce que l'on peut appeler ce remords des Juifs américains, est-ce que vous le ressentez ailleurs que dans vos livres? Est-ce que personnellement vous le ressentez?
I do and I don't. You know, I would say normally.
Oui et non. En fait, dans la vie en général, au quotidien, j'ai pas forcément conscience de mon identité juive.
Although. It's a strange kind of lack of awareness. Like on a day-to-day basis, you might not have much awareness of being French, but you do live in France.
C'est un petit peu comme pour vous le fait d'être français. Vous n'avez pas forcément conscience dans votre vie tous les jours que vous êtes français, mais vous vivez en France. Vous mangez de la cuisine française. Vous êtes dans la culture française. Et moi, finalement, je me sens juif exactement de la même façon que vous pouvez vous sentir français.
Jewish language. I don't live in the Jewish. Homeland, the Jewish state.
Sauf que moi, je ne parle pas la langue des Juifs au quotidien, je ne vis pas dans la mère patrie des Juifs, je ne mange pas cette cuisine au quotidien, je ne suis pas imprégné de la culture au quotidien. Donc, qu'est-ce qui fait de moi un Juif? Finalement, la question n'émerge réellement que quand il y a des raisons politiques derrière, c'est-à-dire quelque chose qu'Israël a fait ou n'a pas fait. Ou alors, elle émerge lors des fêtes juives. Et là, il y a cette forme de culpabilité.
Usually takes the form of I am not giving to my kids what was given to me. You know, even though I was raised in a family that was not at all religious.
Parce que j'ai le sentiment de ne pas forcément donner à mes enfants ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire que je n'ai pas été élevé de façon extrêmement religieuse, mais j'ai quand même été familiarisé, éduqué à la culture juive, aux mélodies, aux traditions, etc. Et c'est quelque chose que je ne suis pas sûr de donner aujourd'hui à mes enfants. Et
ce n'est pas tellement que je veux qu'ils l'aient, mais...
C'est pas que je veux absolument qu'ils aient ça, mais je ne veux pas le leur imposer, mais je voudrais qu'ils aient la possibilité de choisir, d'adopter ou de rejeter cette identité, et on ne peut pas adopter ou rejeter une identité à laquelle on n'est pas familiarisé. Et c'est ça qui me fait ressentir du remords.
D'ailleurs, Jonathan Safran-Foer, on voit cette différente approche du judaïsme chez les Juifs américains dans les trois générations que vous décrivez. Isaac, le patriarche qui est en train de mourir, qui, lui, est un réfugié d'Europe, donc il n'a même pas à se poser la question. Il vit et il parle encore la langue d'autrefois. Il y a le fils, Irv, le père de Jacob, qui, lui, est un supporter à tout mépris d'Israël et qui d'ailleurs l'explique en disant « il vaut mieux être injuste, méchant, brutal, mais vivant ». Et puis il y a Jacob, qui est sans doute celui qui vous ressemble le plus, et qui lui dit « les juifs américains sont prêts à tout pour instiller le sentiment de l'identité juive à leurs enfants, hormis la pratique du judaïsme ». Mais il y a une réflexion que fait Jacob qui, je pense, s'applique assez à vous, à une réflexion de Julia, sa femme, il répond « ma synagogue est faite de mots ». Est-ce qu'au fond, vous pourriez reprendre cette synagogue de mots à votre encontre ?
I suppose I do. I don't. Again, it returns to the first thing that we talked about.
Sans doute, oui, ça revient à la première chose dont on a parlé. On pense toujours qu'il y a d'abord la cause et ensuite l'effet et que ça se produit dans ce sens-là. Peut-être que le judaïsme est important pour moi, donc je décide d'écrire et d'explorer cette thématique. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça pour moi.
Et puis, j'ai souvent trouvé que la juivité est somehow on the page.
En fait, je commence à écrire et là, je réalise que la question de l'identité juive est partout sur la page et ça me surprend toujours autant. Si vous m'aviez posé la question avant d'écrire mon premier roman, est-ce que ton identité juive est importante pour toi ? J'aurais sans doute répondu non. Et puis, j'ai écrit un livre qui dit en fait tout le contraire.
The prosecutor waves the bloody glove and says, "Well, the defendant has been telling us that he had no motive to commit the crime."
Le procureur prend la parole au tribunal pour dire voilà, l'accusé n'avait aucune raison de commettre ce crime. Il dit ne pas l'avoir commis, mais
his blood is all over this glove, so we know that he committed the crime.
Ses gants sont pleins de sang et ce sont ses gants qui montrent que c'est bien lui qui a commis le crime. Le livre pour moi est exactement pareil. Ce sont mes gants pleins de sang, mais ça prouve en fait quelque chose, même si j'ai pu le nier tout ce temps-là.
I, at least. I'm very often wrong about what it is that I think about, or what it is that I feel, you know, my descriptions of myself to other people or to myself are often distorted by how I want to be seen or how I want to see myself. And writing is a unique place to confront.
J'écris en fait pour me confronter. L'écriture est une façon unique en fait de se confronter à un portrait différent de soi-même.
D'ailleurs, ce que vous venez de répondre, Jonathan Safran-Foer, me fait penser à une réflexion de Philip Roth qui disait « ce n'est pas ce que dit un livre qui fait qu'il soit juif, c'est le fait qu'il est plein comme un œuf et qu'il n'arrête pas de parler ». Et votre livre, il est plein comme un œuf aussi. Il y a des comptes rendus de podcasts, il y a des incidentes, il y a tout ce qui fait la vie. Est-ce que du coup, vous êtes assez d'accord avec cette réflexion de Philip Roth ?
J'ai entendu une fois Philip Roth dire qu'un livre juif, c'était un livre incapable de se taire. Et c'est exactement le genre de livre que j'ai envie d'écrire. Je ne dis pas que les livres qui sont très bavards sont forcément meilleurs que les livres plus économes de mots. Il y a des livres très minimalistes que j'ai adoré lire, mais ce ne sont pas des livres que j'aurais écrits moi.
Le nom de cette TV show que j'ai mentionné avant était « All Talk ».
D'ailleurs, le titre de la série télé que j'allais réaliser, c'était All Talk, donc que de la gueule, quelque chose qui parle tout le temps.
Julia, I think, says like, oh, I just want to talk about this thing, and Jacob says, we talk too much.
Jacob dit à un moment à Julia qu'il lui dit, mais il faudrait qu'on discute de telle ou telle chose. Il lui dit, on parle trop dans cette famille.
I don't know how many words are actually in the book.
Je ne sais pas combien il y a de mots dans mon livre, peut-être 100 000, peut-être 120 000, mais mon envie, c'est qu'on ait l'impression qu'il y en a encore plus. J'ai envie que le lecteur ait l'impression d'être confronté vraiment à un flot de langage.
C'était l'environnement que j'ai grandi dans, à nos tables de dîner. Quand nous avions des amis qui venaient pour dîner, ils ne pouvaient pas croire que nous étions autorisés à interrompre.
C'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Quand mes amis venaient dîner à la maison, ils étaient toujours surpris de voir qu'on avait le droit d'interrompre tout le temps nos parents au dîner. On avait le droit de raconter des blagues salaces. On n'avait en fait aucune contrainte là-dessus.
C'est un peu drôle, parce que dans ce livre, les personnages sont en trouble pour... doing too much and not,
on avait des contraintes sur ce qu'on pouvait faire, mais pas sur les sujets qu'on pouvait aborder.
D'ailleurs, Jonathan Safran-Foer, dans cette famille qui parle trop, il y a un personnage, c'est le troisième fils, le plus jeune, Benji, qui est une sorte de philosophe talmudique, parce qu'il vient toujours poser des questions à ses parents qui les laissent là, littéralement sans voix. Ils n'ont plus assez de mots pour lui répondre. Et il y a notamment une question sur laquelle je voulais que nous terminions cet entretien. Benji un jour descend voir ses parents et leur dit « Où est passé le bruit du temps ?» Et ils mettent des jours avant de se rendre compte que c'est parce que leur frigo est en panne et que Benji n'entend plus le ronflement du frigo, le ronflement du temps. Est-ce que ce livre, Me voici, dont nous venons de parler, est-ce que c'est la réponse que vous apportez à cette interrogation? Où est passé le bruit de mon temps?
You know, when I wrote my first book, Everything is Illuminated, I was in college and
quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais à l'université et à l'époque, on n'avait pas les mails, on n'avait pas Internet dans nos chambres. On devait aller au sous-sol, dans un lieu qu'on appelait une sorte de cybercafé, où on allait consulter nos emails et on allait aussi faire nos impressions. On n'avait pas d'imprimante dans nos chambres.
You would see on the computer there's a little queue and it would say who was ahead of
you. Et on voyait s'afficher la liste des impressions et donc des gens qui allaient imprimer leur texte avant nous.
Called, you know, Moby Dick and
oui, donc on pouvait voir un essai de 4 pages sur Moby Dick et le postcolonialisme ou
called contemporary
un essai de 3 pages sur l'astrophysique contemporaine.
And then my book came up and these 400 pages came out of the printer. And everybody in the room just stopped and watched, you know, as the pages came out. And I stopped and watched as the pages came out. And
puis mon livre est sorti, 400 pages, et là tout le monde s'est arrêté pour regarder les pages sortir de l'imprimante, et moi aussi j'ai regardé, et je me suis demandé mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas écrit tout ça, si j'avais pas écrit toutes ces plaisanteries, ces observations, ces images, ces personnages, ces histoires, etc. La réponse la plus évidente, c'est que tout ça n'aurait jamais existé. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure ça, sur la confusion entre la cause et les effets. Il y a quelque chose dont je suis très heureux dans mon processus d'écriture. C'est que mes livres ne sont pas des témoignages qui racontent ma vie. Ce n'est pas ma propre façon en fait, d'enregistrer le passage du temps dans ma vie.
It's not as if they existed before I write, it's because I write that they exist.
Les livres ne préexistent pas en fait, parce que j'écris, les livres existent.
On en revient à la synagogue de papier. C'est une vie de papier que nous avons sous les yeux, une vie formidable, ça s'appelle Me voici. Ça paraît aux éditions de l'Olivier, c'est traduit par Stéphane Rock. Et c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Jonathan Safran-Foer, vraiment.
Thank you.
Et merci beaucoup à notre interprète Marguerite Capelle. C'est terminé pour l'Humeur Vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine, aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir Pierre Curie, le directeur du musée Jacquemart-André, où se tient une très belle exposition sur des impressionnistes collectionnés par un couple de Danois. Je ne vous dis que ça. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.